Radio Kapi. Oh,
Kapi. Patience Ngalula à la présentation.
D'abord les titres. Congolais et Zambiens reprennent désormais leurs activités d'import et d'export. Les frontières entre les deux pays, fermées depuis quelques jours, sont ouvertes ce lundi à Lubumbashi, tard dans la soirée. Reprise des activités socio-économiques et professionnelles ce mardi dans les villages Rukoko et ses environs dans la partie nord de la ville de Goma. Les forces de l'ordre ont réussi à disperser les jeunes qui tentaient de semer les troubles sur la voie publique ce matin. L'invité de ce journal est le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Damien Twambilangana revient sur la construction du micro-barrage Chute Mbombo au Kasaï central par sa structure. Bonjour à tous. Les frontières entre la RDC et la Zambie, qui étaient fermées à l'import et à l'export sur décision du gouvernement zambien, sont de nouveau réouvertes dès ce mardi matin. L'accord entre les deux parties est intervenu ce lundi à Lubumbashi, tard dans la soirée. Zambiens et Congolais ont accordé une dérogation spéciale de 30 jours collectivement à tout opérateur économique qui avait déjà passé les commandes des produits visés par la mesure de sauvegarde. Ils peuvent donc faire entrer leurs marchandises en RDC sans restriction aucune. Jean Gandou pour les détails.
La RDC s'est engagée à autoriser l'entrée sur son territoire les marchandises qui étaient frappées d'interdiction pour la sauvegarde de son économie. Le ministre congolais du commerce extérieur explique ce que d'aucuns considèrent comme un rétropédalage du gouvernement congolais dans ce dossier. Julien Paloukou.
Il n'y a pas eu de recul par rapport à nos décisions. Nos décisions sont d'ailleurs réconfortées par la décision zambienne de ne plus accepter que des marchandises en destination de notre pays soient ouvertes sur son sol. Tous les autres produits zambiens qui sont d'origine zambienne, comme nous avons un accord avec eux, et ont un libre passage en respectant bien sûr les droits des douanes qui sont prévus par notre législation. Et je vous annonce que les transbordements faits dans tous les pays qui nous entourent nous privent de près de 5 milliards de dollars chaque année.
Pour sa part, la Zambie s'est aussi engagée à garantir la libre circulation des marchandises en transit vers la RDC, conformément aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce sur les échanges commerciaux. Elle a aussi insisté que la RDC respecte les accords qui lient les deux pays en matière de commerce extérieur. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Justement, les trafics commerciaux ont bel et bien repris aux différents postes frontaliers de la RDC et de la Zambie après la décision des réouvertures de frontières à l'import et à l'export. À la frontière de Mokambo, dans les territoires de Sakania par exemple, tout est redevenu normal, comme l'a constaté les coordonnateurs de la société civile dans ces territoires. On écoute Jean Olondo, joint par Jean Gandou.
Nous avons constaté que ce matin, la frontière est ouverte, il n'y a plus d'encombrement, tous les véhicules passent sans problème. Tout est en ordre et puis les prix n'ont pas augmenté, les histoires passent sans problème. Mais nous demandons au gouvernement pour qu'il puisse arranger le climat des affaires. Donc nous avons besoin à ce que ces entreprises-là puissent voir le jour ici au Congo, de telle sorte que certains produits qui viennent de pays voisins s'échappent au contrôle. Et lorsque ces entreprises-là vont voir les jours ici, nous aurons à assurer les contrôles. Puis il y aura aussi le problème des taxes que va gonfler le chiffre d'affaires. Et en plus de ça, les enfants du milieu vont en profiter et auront quand même du travail. C'est ce que nous demandons à notre gouvernement pour ce genre de situation, que nous ne voulons plus que ça puisse se reprendre.
Pendant ce temps, au Kasaï oriental, baisse des prix du ciment gris en Mbujimayi. Vendu autrefois à 30 dollars, les sacs de ciment gris se négocient actuellement entre 22 voire 23 dollars américains. Les importateurs de cette marchandise parlent de l'abondance du ciment gris sur les marchés de Mbujimayi pendant cette période des saisons sèches. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plusieurs dépôts de Mbujimayi sont inondés de sacs de ciment gris qui proviennent soit de Kinshasa, de Likasi dans le Haut-Katanga ou encore de Kolwezi dans la province de Lualaba. Ces cargaisons de ciment sont pour la plupart acheminées en Mbujimayi par véhicules qui profitent de la saison sèche et d'autres par bateaux de Kinshasa à Ndomba dans le territoire de Kabiakamanga en passant par la ville de Lusambo dans la province du Sankoro. Actuellement sur le marché de Mbujimayi, le sac de ciment gris se négocie chez les importateurs entre 20 et 21 dollars. Nombreux disent travailler à perte.
Nous avons beaucoup de sacs de ciment dans les dépôts. Nous cherchons seulement des clients.
Malgré cette baisse, les revendeurs affirment ne pas faire de bonnes affaires.
J'ouvre les dépôts à 8h, je ferme même à 16h vers 17h. Pour vendre même un sac, vraiment, c'est difficile.
À la Fédération des entreprises du Congo, l'on souhaite que le prix des ciments soit stable. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC.
Nous aimerions que la situation continue. Et pour cela, nous soutenons l'action du chef de l'État de réhabiliter toutes nos routes.
D'après certaines indiscrétions, les importateurs occasionnels de cette marchandise sont également à la base de la baisse de prix des ciments gris sur le marché. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les activités socio-économiques et professionnelles reprennent normalement ces mardis matin dans les villages de Rukoko ainsi que dans les quartiers voisins de Majengo et Bouhéné. C'est au nord de la ville de Goma. Les jeunes qui tentaient encore de barricader la route ont été vite dispersés par les forces de l'ordre. Ceci fait suite à des violentes manifestations hier lundi après une série de fusillades des civils par des hommes armés et en tenue militaire dans la zone. Au moins 3 civils ont été tués et 5 autres blessés. Les points avec Gabriel Wamenya.
Boutiques, magasins et stations-service ont ouvert ce mardi matin. Les trafics urbains au Grand Carrefour, communément appelé Bon Voyage, déserté hier, a été pris d'assaut depuis les petites heures du matin de ce mardi par les voyageurs et les motocyclistes. Les vendeurs à la criée, les colporteurs, circulent et les mécaniciens voient que normalement à leurs activités. La société civile de Nyiragongo qui confirme la reprise totale des activités précise que les nouvelles manifestations que voulaient organiser les jeunes ce matin ont été étouffées dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité toujours présentes dans la zone. Par ailleurs, les auteurs présumés du meurtre des deux personnes acquis ici, dans les villages de Rukoko, ayant conduit aux manifestations d'hier lundi, ne sont toujours pas connus. Des sources proches de l'armée affirment que les enquêtes se poursuivent pour rechercher les coupables présumés du crime ayant coûté la vie à 2 jeunes et blessant 5 autres civils. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
En Ituri, la population des localités lacustres frontalières avec l'Ouganda doivent être vigilantes pour barrer la route à l'ennemi de la RDC, dont les rebelles du M23. Cet appel a été lancé par la délégation mixte du Comité de sécurité des territoires de Djougou et Irumu, qui a clôturé sa mission dimanche dans 6 entités aux îlots et à la plaine du lac Albert. L'objectif de cette randonnée était d'évaluer la situation sécuritaire par rapport aux alertes sur l'infiltration des hommes armés qui serait des connivences avec le M23. Isaac Remoyope.
Cette délégation conduite par les administrateurs des territoires de Djougou et Irumu s'est rendue dans les localités de Rukwanzi, Matete, Semuliki 3, aux îlots à la frontière avec l'Ouganda et d'autres localités lacustres dont Chicha, Chiritsi et Malonga. Ces autorités ont exhorté la population composée essentiellement des pêcheurs à aiguiser la vigilance pour éviter l'infiltration des rebelles du M23 et leurs alliés qui ont envahi la RDC, mais aussi de promouvoir l'unité et la cohésion sociale pour faire échec au plan de l'ennemi qui est de diviser les communautés locales pour déstabiliser les pays. Les membres du comité territorial de sécurité des deux entités ont recommandé aux habitants de dénoncer tout mouvement suspect et toute personne qui détient illégalement les armes et d'ajouter que le gouvernement a déjà pris des dispositions nécessaires pour la sécurisation de ses citoyens et des frontières. Des militaires sont déployés notamment vers Bourassi et Kaliabougongo dans les territoires d'Irumu. L'administrateur du territoire de Djougou a également tenu un meeting populaire vendredi à Tchomia pour sensibiliser la population à collaborer avec les services de sécurité envie de dénicher les suspects. Pour rappel, 11 personnes en provenance de l'Ouganda ont été arrêtées dimanche à Tchomia Bunia. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Les commandants de la 22e brigade des réactions rapides a clôturé ce lundi sa tournée d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire à l'intérieur de la province du Tanganyika. Les services de communication des forces armées annoncent que le général Dunia Kashindi s'est rendu à Manono, Kabalo et Nyunzu. Il a tenu des parades avec les militaires et interdit leur présence le long des barrières et dans les carrières minières. Justice, les procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai à Kinshasa s'acheminent vers la fin. Au terme des interrogatoires des prévenus, les plaidoiries et réquisitoires du ministère public pourront intervenir dans une semaine. À son audience publique hier lundi à la prison militaire d'Indolo, le tribunal militaire a auditionné les rapports des relevés téléphoniques des compagnies cellulaires. Celle-ci charge les prévenus Jean-Jacques Wondo, mais sa défense rejette ces rapports, alléguant que le ministère public serait en train de chercher en vain comment lier son client à l'événement du 19 mai. Un autre rapport des experts du Conseil national de sécurité sur les numériques est attendu à la prochaine audience ainsi que des renseignants. Commencé le 7 juin, les procès sur la tentative du coup d'État a confronté 51 présumés assaillants, accusés notamment de terrorisme, meurtre, attentat, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ils plaident tous non coupables et la majorité d'entre eux déclarent que c'est par contrainte qu'ils se sont retrouvés dans les mouvements New Zaïre de Christian Malanga, tué le 19 mai au Palais de la Nation. À Kinshasa, Maluku, l'une des communes frontalières avec le Congo-Brazzaville, peine à s'en sortir. Parmi les difficultés que rencontrent les habitants de ces coins, l'insécurité et les manques de transport viennent en tête. Étant à la frontière, des patrouilles sont organisées chaque soir par les services de sécurité. Mais là où les bas blessent, c'est que ces patrouilles sont devenues presque un gagne-pain pour certains de ces agents. S'agissant des transports, les déplacements vers Pascal et les centres ville, par exemple, est un véritable parcours des combattants. Miradine Fouengi et Arcel Kajourou se sont rendus sur place. Suivez leur reportage.
Pas facile de vivre à Maluku. Chaque jour, les habitants font face au manque d'électricité, de l'eau, mais surtout des tracasseries perpétrées par les agents de sécurité, notamment la police, les militaires et autres.
En ce moment, parmi ceux qui nous arrêtent, il y a le JR. La police, à 19h, quand ils nous arrêtent, ils nous demandent 50 000 francs congolais. Ce sont des soldats maintenant qui créent l'insécurité. Ils peuvent nous croiser la nuit, ils nous arrêtent et arrachent tout ce que nous avons.
La rareté et le coût de transport en commun est un autre casse-tête pour la population de Maluku.
Que les autorités nous laissent le transco à Maluku pour nous faciliter les déplacements. Le transport privé taxe les prix selon eux, plus ou moins 12 000 francs.
Face à ces deux préoccupations soulevées par ses administrés, les bourgmestres de Maluku expliquent. Alexis Munduni.
Je vais interpeller le commandant pour donner l'instruction à ces éléments de la police de ne plus confisquer les choses d'autrui. C'est la situation du transport, de ne pas seulement Maluku. Je fais seulement les rapports à mes hiérarchies pour résoudre les problèmes de transport. Les bourgmestres ne dirigent pas la commune seule.
Malgré toutes ces difficultés, les habitants de Maluku, qui par moments peinent à croire qu'ils font partie de Kinshasa, se débrouillent pour tenir le coup.
Autre information, votre rôle, c'est de tracer le chemin vers des avancées significatives qui traduiront des résultats concrets. C'est en ces termes que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a ouvert lundi 12 août à Kinshasa la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2023-2024. À cette occasion, Raissa Malou a exhorté les inspecteurs généraux de l'éducation de s'approprier des objectifs définis par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Suivez la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, dans cet extrait choisi par John Chibwabwa.
Il est impératif de souligner l'importance pour chacun, à tous échelons, de s'approprier pleinement les objectifs définis par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Votre engagement pour dynamiser le développement socio-économique, votre engagement est essentiel pour dynamiser le développement socio-économique de notre nation. Je reste persuadée que l'Inspection générale de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté possède les compétences requises pour surmonter les défis qui se présentent. Loin de se limiter à un rôle d'élite, elle représente la pointe avancée de notre action éducative. Mesdames et messieurs les inspecteurs, Nous souhaitons que cette réunion annuelle soit le théâtre de discussions stratégiques. Votre rôle est de tracer le chemin vers des initiatives significatives qui se traduiront par des résultats concrets. Il est attendu de vous que vous surmontiez les obstacles et que vous proposiez des recommandations techniques, constructives et pertinentes en adéquation avec le thème qui a été choisi.
Sachez que ce forum est placé sous les thèmes « Les missions de l'inspection scolaire, gage de l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler les développements socio-économiques ». La synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL a regretté ce mardi que le processus électoral en cours n'ait pas consolidé la démocratie en RDC. Son coordonnateur Luc Loutala l'a fait savoir lors de la présentation du rapport intermédiaire devant le média à Kinshasa. Pour élever ses défis, il propose entre autres la réforme de la loi électorale. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À travers ces rapports intermédiaires, la CIMOCEL a interrogé au moins 690 personnes des 19 provinces de la RDC, parmi lesquelles les membres de la société civile, les acteurs politiques ainsi que les chercheurs. Dans son argumentaire, les coordonnateurs de cette structure a noté 20 défis à relever pour que le prochain processus électoral corrige les faits saillants observés et permette au pays de respecter la loi électorale en vigueur. Luc Loutala a cité entre autres les défis de respect des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote et des luttes contre la corruption. Il a également fait savoir que le non-respect des principes démocratiques lors des dernières élections est à la base des difficultés que connaissent les institutions du pays, sacrifiant ainsi les besoins primaires de la population.
Qui est sacrifié? Ce sont pas ces politiciens, hein, mais c'est la population. On ne sait pas gérer les besoins de la population. On prend la situation de Kinshasa. C'est quand même le reflet du pays où des problèmes s'entassent.
Pour la CIMOCEL, l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées paraît comme un gage incontournable de la cohésion sociale, de la stabilité, du développement et de la paix. Cependant, la CIMOCEL rappelle que les rôles de chaque institution, à savoir la CENI, l'Assemblée nationale, le Sénat et la Cour constitutionnelle, restent cruciales pour une démocratie solide.
Actualité internationale.
À l'ONU, l'Afrique exige une meilleure représentation au Conseil de sécurité lors d'un débat historique. Pour la première fois en près de 80 ans, un premier débat a eu lieu lundi 12 août au Conseil de sécurité de l'ONU sur les renforcements de la représentation africaine. Un débat estimé essentiel par 11 pays, dont la Sierra Leone qui préside le Conseil en août. Les représentants présents ont expliqué que l'Afrique demande une représentation équitable dans tous les organes décideurs de l'ONU et en particulier au Conseil de sécurité. La seule façon, selon eux, de s'assurer que les décisions bénéficieront vraiment au continent africain.
L'invité.
Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain est notre invité. Damien Twambilangana revient sur la construction du micro-barrage Chute Mbombo au Kasaï central. Il a conduit les équipes qui doivent finaliser les études d'ici 3 mois et mener les travaux d'aménagement de la route en direction du site. Il indique qu'Anser a repris la main sur ces projets qui étaient pilotés par Besseco et promet que les travaux de la construction de ces micro-barrages seront finalisés dans 2 ans. Damien Twambilangana s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Damien Twambilangana, bonjour.
Bonjour.
Les travaux de Chute Mbombo, où en est-on aujourd'hui avec ce projet?
Nous avons déjà une feuille de route et cette feuille de route a prévu effectivement qu'on fasse la descente sur le terrain avec les différentes délégations constituées des entreprises, le bureau d'études qui devrait désormais accompagner le projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo.
Il y a eu beaucoup de choses autour du projet, les travaux confiés au Besseco. Actuellement, comment ça se passe? C'est Anser qui pilote le projet. C'est que c'est factuellement c'est des études. La première pierre a été posée, mais jusqu'à maintenant, rien n'est fait sur le site. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, effectivement, la première pierre avait été posée. Nous étions là d'ailleurs, hein, mais aujourd'hui, je confirme qu'on avait un protocole d'accord avec le Besseco, mais qui est obsolète depuis l'instruction du président de la République qui nous donne le mandat de pouvoir mobiliser des moyens financiers pour les projets et d'implémenter ce projet jusqu'au bout, vu que c'est la mission de l'Anser de pouvoir électrifier les zones rurales et périurbaines au moyen des différentes technologies, dont l'hydroélectricité, comme c'est le cas pour Mbombo. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle feuille de route qui veut que nous puissions avancer. Nous allons finaliser les études d'ici 3 mois. Avec le BCECO, il y avait déjà des études qui avaient déjà commencé à être entamées, mais c'est limité à un niveau sommaire. Nous poursuivons les études avec le bureau d'études qui a été mobilisé, Hydrogénie, hein, c'est le professeur Fomba, et nous pensons que d'ici 3 mois, ces études seront terminées. Mais nous n'allons pas attendre la fin des études, nous sommes en train de faire parallèlement beaucoup d'autres activités. Nous sommes venus, par exemple, avec des experts en rapport avec les routes. Il y a un bureau d'études qui était là pour la route, la voie d'accès. Ils étaient sur le site avec nous. Ils ont dû analyser tous les différents axes routiers pour faciliter l'accès vers le site. Et nous avons levé l'option sur l'axe qu'il faudrait. Et ils sont déjà en train de travailler sur l'étude. Donc, ils nous ont promis que dans 2 mois, ce serait terminé. Ça nous permettra alors d'entamer déjà les travaux pour la construction de la route qui va faciliter l'accès de matériaux. Nous sommes venus aussi avec le bureau d'études qui a l'architecte, enfin le cabinet d'architecture, dont la mission est de nous faire un plan sur la base vie. La base vie que nous voulons maintenant, c'est pas une base vie classique, c'est une base vie qui ressemblerait à une petite cité, de manière à ce que après les travaux, c'est une petite cité qui va se développer pour que finalement la vie puisse renaître dans les villages. Mais nous sommes aussi venus avec des experts socio-économiques qui sont en train d'étudier l'implémentation d'un zoning industriel. Ce projet est intégré. On va et construire le barrage pour l'énergie et construire une zone économique spéciale pour des petites industries, pour la consommation de cette énergie et créer de la richesse.
La population attend voir la première lampe s'allumer. À ce point, qu'est-ce qu'il faut promettre? Dans combien de temps la population va voir cette lampe s'allumer?
Je réitère mes excuses. Lors de l'échange citoyen, j'ai personnellement demandé pardon à la population du centre Kassaïen parce qu'effectivement, il y a eu trop de va-et-vient ici, il y a eu beaucoup de promesses, même dans lesquelles nous-mêmes nous étions impliqués, mais voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous réitérons encore ces excuses auprès de la population centre Kassaïen pour tous ces retards connus. Maintenant, nous avons résolu que la feuille de route actuelle nous met 2 ans. D'ici 2 ans maximum, nous aurons terminé tous les travaux et nous aurons déjà donné les premiers kilowattheures de la centrale de Mbombo. Nous sommes venus d'ailleurs sur le site avec la société CGCD et qui est en groupement avec ACCC, la société issue de SACIM, pour la construction de la centrale hydroélectrique. C'est eux qui ont construit la centrale hydroélectrique de Movo en Mbujima et du côté de Miabi, et c'est eux qui ont construit aussi la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi.
Alors qu'est-ce qui rassure cette fois-ci?
Ce qui rassure, c'est que nous sommes déterminés, nous avons une feuille de route, nous avons des entreprises sérieuses et surtout nous avons un partenaire financier, parce que vous savez, même le blocage aussi du BCECO a été d'ordre financier. Donc aujourd'hui il y a un partenaire financier, c'est un partenaire financier congolais de Arc-en-Ciel, c'est le nom de l'entreprise, et nous avons signé le protocole d'accord, on a signé les accords de financement. En tout cas, c'est un financement qui a été sécurisé, c'est ça qui nous rassure que maintenant nous pouvons aisément commencer les études, atterrir aisément avec les travaux sans perturbation. La deuxième chose qui rassure, c'est les contacts que nous avons eus avec le gouverneur. Le gouverneur de la province s'est montré très ouvert, très engagé dans ce projet.
Monsieur Damien Tambilangani, nous vous disons merci.
Merci à vous.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information mise en onde par Deps Vita sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Blaise Shindani Kambala. Patience Ngalulambombo, c'est moi, je vous l'ai présenté. Merci à vous tous de l'avoir suivi.